La vie, c'est comme les montagnes russes. Une phrase du bon sens populaire qui nous exaspère quand le moral est bien encaissé au fond de la vallée. Qui aurait dit qu'un jour, boire un café au comptoir relèverait de la grande aventure ? Alors ce matin, Pop & Co raconte un parcours et un disque de haute intensité. Pop & Co et Pop & Pop Satori, titre du troisième album d'Étienne Dao, paru il y a 35 ans pile. Satori est un mot qu'Étienne Dao a pioché dans Satori à Paris, un roman de Jack Kerouac, où il écrit « Satori, mot japonais désignant une illumination soudaine, un réveil brusque ou tout simplement un éblouissement de l'œil. » Pop Satori est un album de l'extase et de l'inquiétude dans le même mouvement. Un polaroïd de la mi-temps des années 80 autant qu'un dessin pour le futur. Et une bande-son pour toute la vie. Pour toute la vie, ça fait promesse de gosse. Eddie De Pretto s'en était fait une, chanter ses textes sur sa musique. On entre au cœur d'une de ses nouvelles chansons un peu avant midi. La vie, c'est comme les montagnes russes, finalement, c'est pas si con. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
C'est quoi, 1986 ? C'est le Minitel dans le salon et les TGV Orange. C'est le journal Le Parisien qui écrit que la Tour Eiffel va être déplacée à Marne-la-Vallée parce qu'à l'époque, on fête encore le 1er avril. C'est Jackie Sardou qui fait la pub d'une colle pour appareil dentaire. C'est la naissance d'Alex Turner, futur leader du groupe anglais Arctic Monkeys. C'est le décès de Jean Genet et de Coluche aussi. C'est Thatcher et Mitterrand qui annoncent la construction du tunnel sous la Manche. C'est ce générique d'une émission jeunesse qui s'intitulait Minimag sur TF1 et qui faisait rien qu'à nous annoncer des changements.
Quel beau sommaire. Et on va commencer musical, parce qu'il y a eu une sorte de coup de balai dans le showbiz tricolore. Depuis quelques temps, les héritiers de Claude François commencent à laisser leur place à une nouvelle génération de chanteurs, la pop génération. Et derrière Étienne Dao, le précurseur, toute une bande de garçons et de filles venus de l'underground musical s'est engouffrée dans les hit-parades. Fini les bellâtres bel an. Et Philippe Pierre-Adolphe s'est demandé si le bel Étienne était l'instigateur de ce complot pop.
Est-ce que vous avez l'impression que ce qui se passe aujourd'hui avec la pop française des années 80, ça... C'est un peu comme autant des yéyés.
Oui,
qui dit oui, Françoise Hardy.
J'ai très bien ressenti ou pris conscience, je ne sais pas, que cette année, donc l'année 86, a marqué un tournant extrêmement important dans le show business, que subitement les gens de ma génération avaient pris un vrai coup de vieux, ce qui est normal d'ailleurs, et que était arrivé un tas de nouveaux chanteurs avec un style différent qui effectivement faisait paraître assez dépassé tout ce qui s'était fait avant.
1986 donc. Étienne Dao publie son troisième album. Il sort même un 1er avril. Premier mot du premier tube de ce disque, Audace, indécence exigée.
Ouais.
Je vous présente Arnold Turboust. C'est lui qui a notamment composé la mélodie de cette chanson, Épaule Tatou, et qui a co-réalisé l'album Pop Satori.
Est-ce que tu veux un croissant, Lulu ?
Rien du tout. Merci beaucoup.
Nous sommes donc quatre. Étienne Dao, Arnold Turboust, Lucie Gossard, attachée de presse dite Lulu, et votre serviteuse. Ça s'est passé à Londres, ville balise, dans la vie d'Étienne Dao, là où il s'échappe, là où il écrit. Cette fois, le studio s'appelait Guérilla, avec Arnold Turboust. Ils ont commencé à y enregistrer les premiers titres de l'album Pop Satori. C'est l'hiver, on est en 1985, et Londres, c'est quoi ?
Alors c'est une ville vraiment très pauvre. Hein. Toutes les maisons étaient à vendre. C'était un moment très créatif, il y avait beaucoup de clubs, beaucoup de concerts. Après les sessions, j'avais besoin de sortir, donc je sortais jusqu'à pas d'heure et pour écrire aussi, pour trouver des idées. Et donc je rentrais au petit matin, parce qu'Arnold me foutait la pression, il me disait tout le temps « Alors, t'as des textes ?» Je disais « Oui, bien sûr !» J'avais rien. Donc j'essayais d'écrire dans la nuit, j'arrivais avec des bouts de trucs, donc j'avais des bouts de papier partout. J'ai revu récemment un documentaire qu'avait fait Jean-Michel Gravier, notre ami Jean-Michel Gravier, qui était un journaliste fantastique, et plus là aujourd'hui.
Bon ben voilà un texte nul et pas drôle du tout, comme je les aime. On va peut-être essayer de le prendre. Je crois que ça peut fonctionner.
Et j'enregistre les voix d'Épaule Tatou, en fait. Ouais. Souvent, je suis par terre en train d'écrire, dernier moment. Enfin, voilà, tout le disque a été fait comme ça. C'était vraiment... Ouais. Tout s'est fait dans une espèce de pression, d'urgence, dormant 14 secondes par nuit.
Audace indécence exigée, blocus pour qui souhaite s'immiscer.
Épaule Tatou, c'est une photo de la nuit de Londres, non ?
Oui,
c'est se passe dans un club.
J'étais beaucoup dans ce club qui s'appelait Le Tabou. Et donc là, quand on poussait la porte du Tabou, c'était un monde qui s'ouvrait. C'est-à-dire que vraiment, c'était une espèce de public complètement bigarré, maquillé, travesti, drogué, enfin, vraiment, vraiment super, quoi. Et c'était une fille que j'avais rencontrée qui s'appelait Suzy, qui était entièrement tatouée de la tête aux pieds, qui était extraordinaire, vraiment une apparition, vraiment une très grande beauté, et puis une espèce de personnage comme ça, qui sort du cadre, des clous... J'avais été vraiment impressionné par elle. Et donc voilà, la chanson, c'est elle. C'est elle, c'est le tabou, c'est la nuit londonienne.
Avec deux O, et donc un club de Londres des années 80, près de Leicester Square. Mais Le Tabou, T-A-B-O-U, c'est aussi un club de jazz d'après-guerre, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Le texte d'Épaule Tatou fait référence aux deux, la chanson Télescope l'année 86 et l'année 47, deux moments où la jeunesse connaît une épiphanie. Forcément la première fois qu'on chante sur ce refrain-là, on n'y pense pas, on danse surtout.
Ça enlève un petit peu les contours et les aspérités, en fait. Le tube, le fait que quelque chose passe beaucoup en radio. On entend un truc à la radio, donc il y a une espèce de banalité comme ça qui s'installe. Effectivement, le texte est beaucoup plus malicieux et rigolo que ça. C'est pas une volonté de planquer des choses, c'est que c'est assez rigolo. Ça permet peut-être 35 ans après de découvrir un texte.
C'est-à-dire que...
Mais c'est beaucoup plus fort d'avancer en crabe.
C'est-à-dire...
Ben voilà, on vous voit pas arriver, puis voilà, vous faites passer des petits messages.
C'est
après, qu'on prend qui veut, ou qui peut. D'ailleurs, l'album s'ouvre par audace, indécence, c'est les deux premiers mots, ouais. Parce que le premier titre est instrumental. Il y avait cette musique très générique de film qu'avait fait Arnold, qui était vraiment top. Il y avait vaguement des textes, enfin, comme des chœurs qui disaient le pop satori n'est pas un pain qui se danse froid, c'est ça, non?
Ouais,
qui
c'est ça, ouais.
Une phrase idiote, mais en même temps, c'est un album pour la danse, en fait, pour les clubs, en fait. C'était ouais, vraiment ça.
Pop & Co, Rebecca Manzoni.
Bonjour.
Dans les années 80, tous les jours ouvrés, à 13h, on entendait ce bonjour-là sur TF1. Mourouzi, sa gouaille, sa voix de fumeur, ses cernes de bambochard. Mourouzi Yves, présentateur du journal de la mi-journée et figure connue des nuits parisiennes. Pour cette édition-là, en avril 1980, il y avait une grosse actu.
Alors comme nous sommes le 1er avril, eh bien nous devons fêter aujourd'hui un anniversaire, celui de la création de ce qu'on pourrait appeler véritablement une institution. Non, ce n'est pas de la publicité d'en parler, cela fait 2 ans que le Palace vit une nouvelle vie à Paris. Et sans doute cet établissement a modifié un certain nombre de comportements des noctambules ici à Paris, mais aussi ailleurs à travers la France et ailleurs à travers le monde.
Le Palace, phare des nuits parisiennes quand la capitale était avide d'insouciance et de fiesta, le Palace, un des nightclubs ouverts par Fabrice Hemmer.
La fête, parce que c'est important, c'est très directement enraciné dans les traditions, la fête. Et je pense que si nous l'avons ressuscitée avec tellement de succès au Palace, c'est précisément parce qu'elle correspondait à une tradition. Le respect du calendrier, par exemple, dans les fêtes, le Mardi Gras, la mi-carême, prouve à quel point les gens ont besoin de retrouver leur identité dans la fête.
Et maintenant la fête. La musique, François.
Il y a avec lui Fabrice Hemmer pour faire le parallèle entre la mi-carême et le Palace.
Je peux un petit peu vous décrire là. Je suis l'hymne à la moule. C'est à quoi ça sert la moule? La moule ça sert à ça, et ainsi de suite. Voilà. J'ai du mal à enfiler mon micro entre vos coquilles. C'est la première fois que vous déguisez? Non, j'étais en lingot d'or la dernière fois.
Et me revoilà.
Ça va.
Bienvenue chez Christophe Comte, journaliste. Vous l'avez déjà entendu dans un Pop & Co dédié à Nino Ferrer. Or, Christophe Comte est aussi l'auteur d'une biographie d'Étienne Daho et d'un documentaire intitulé « Daho par Daho » réalisé par Sylvain Bergère. Donc voilà pourquoi nous revoilà.
Au moment de la sortie de Pop Satori, c'est un peu presque une sorte de zénith de la pop française telle qu'on va l'entendre dans les années 80, puisque après l'euphorie du début, c'est-à-dire l'arrivée de la gauche au pouvoir, l'arrivée forcément à la suite de ça des radios FM, qui vont être quand même pour grande part dans l'émergence de cette scène, Pop Satori arrive au milieu de la décennie comme ça, comme une sorte de point de bascule à la fois. À mon sens, c'est vraiment le moment extatique suprême de cette génération-là, et presque le début de son appréhension de l'avenir. Il y a quelque chose dans l'air de cette génération qui est de profiter un maximum de ce qui se passe pour eux, de la peur que ça s'éteigne très vite. Et je pense que Pop Satori encapsule ce moment-là de manière presque involontaire, mais Étienne est presque devenu le porte-parole. À l'époque, on parle de Daomania, donc c'est quand même pas rien. Il est vraiment la locomotive d'une génération d'artistes. Et tous ces artistes-là, ceux qui sont sur le disque, hein, comme Elie Medeiros, comme Arnold Turboust, et ceux qui n'y sont pas, mais qui d'une certaine manière appartiennent à cette génération-là, qui vont arriver juste après, c'est-à-dire les Rita Mitsouko, l'affaire Louis Trio, tout un tas de groupes comme ça qui représentent vraiment la pop française comme on ne l'avait pas connue jusqu'ici, vivent un peu de cette euphorie-là. Et peut-être que Pop Satori, c'est l'album un peu moteur de ça, c'est l'appartement témoin de cette génération-là.
La lumière, c'est quoi?
un album pour les clubs, et en même temps, vous dites « Laissons-nous bercer d'illusions bernées ». Enfin,
oui.
C'est aussi la fin de la fiesta.
C'est avant la gueule de bois.
Étienne Dao.
C'est vraiment les dernières années de la fête à Londres et à Paris, avant vraiment l'arrivée massive du sida. La gueule de bois, quoi, vraiment, c'est ça. Mais il y avait encore, à ce moment-là, cette espèce de légèreté où tout était absolument possible.
Arnold Turboust.
C'est ça, c'est un peu la fin d'une époque, une fermeture d'iris. Enfin, tout était possible et d'un seul coup, tout a commencé à se refermer. Enfin, différemment, en tout cas, exister différemment.
Enfin, quand on compare à aujourd'hui, c'était quand même, malgré tout, c'était quand même assez dément.
C'était vraiment la
bande-moche. C'était quand même assez génial. Donc, c'est une gueule de bois très relative dans laquelle qu'on aimerait bien revivre, en fait.
Mais dès 1984, on parle de plus en plus d'un virus qu'on désigne par son acronyme, SIDA. 1986, le réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose et...
Mes chers compatriotes...
Le 17 mars 1986, François Mitterrand, président de la République, s'adresse aux Français pour prendre acte du résultat des élections législatives.
Vous avez élu dimanche une majorité nouvelle de députés à l'Assemblée nationale. Cette majorité est faible numériquement, mais elle existe.
Traduction, j'ai les boules, mais je suis démocrate.
Je forme des vœux pour que la majorité nouvelle réussisse dans l'action qu'elle est maintenant en mesure d'entreprendre selon les vues qui sont les siennes.
Traduction, Jacques Chirac va en voir de toutes les couleurs.
Mes chers compatriotes, au-delà des divergences bien naturelles qui s'expriment à chaque consultation électorale, ce qui nous rassemble est plus puissant encore, c'est l'amour de notre patrie. Vive la République, vive la France.
Et pendant ce temps...
Inter, Rebecca Manzoni, Pop & Co.
Et aujourd'hui, Pop & Co et Pop & Pop Satori, titre du troisième album d'Étienne Dao, paru il y a 35 ans. Extrait de l'émission Décibels de nuit, présenté par Jean-Loup Janer, le 7 juin 1985.
Je ne me pose pas la question de savoir si je suis rock, pop, variette ou autre. Ça, c'est pas mon problème.
Mais t'es rock parce que, j'allais dire, plein de gens
de par les références, parce que, de par les références, parce que c'est vrai que c'est pas Peter et Sloan, quoi, si tu veux.
Besoin de rien, envie de toi, de Peter et Sloan, est un tube de cette année-là, 1985. Et Étienne Dao reçoit le bus d'acier. Dans certains articles de presse de l'époque, j'ai lu la bûche d'acier. Mais non, le prix de l'artiste rock de l'année est organisé par le bus et pas par le bûche palladium. Avant Dao, donc, les lauréats furent Alain Bachung, Charles-Élie Couture, Indochine et Lizzie Mercier-Desclous. ...1985 donc. Une chanson du futur album Pop Satori est aux avant-postes. Tombé pour la France, qu'on a écouté en dansant tout seul dans nos chambres avec un sens interdit punaisé à la porte. Bebop, ce sont les premiers mots de la chanson, encore une allusion à la bande-son de la jeunesse d'après-guerre. Mais ça racontait surtout Paris et une vie à toute vitesse, et on savait qu'on serait pas taillé pour.
Bebop, pieds nus sous la lune, sans foi ni toi ni fortune, je passe mon temps.
Cisaille que vous venez d'entendre et qui signe la chanson, ça fait penser à ceci. Extrait de Owner of a Lonely Heart du groupe Yes. Bon, vous écouterez la suite chez vous. Ce son sur lequel j'insiste, c'est un Fairlight, synthé devenu signature sonore de l'époque, et c'est Christophe Comte, journaliste, qui vous en dit plus.
Ça, c'est vraiment, pour le coup, un synthé très marqué de cette époque-là. Et en même temps, ça apporte vraiment quelque chose qui n'existait pas dans la musique française à l'époque. Et donc, du coup, il y a quand même une part d'avant-garde dans le cadre d'une pop qu'on pourrait dire presque grand public. Avec le recul, on peut se dire que oui, la production de Tomber pour la France et la production en général de Pop Satori est très novatrice par rapport à tout ce qui se faisait autour, y compris dans la musique synthétique qu'on appelait... la synth-pop ou la techno-pop. Dao, c'est encore autre chose. C'est un mélange entre les yéyés des années 60 et la new wave. En mélangeant les deux, et Dao est vraiment le centre de ça, puisqu'il est à la fois fan de Françoise Hardy, de Jacques Dutronc, de tout ça, et puis également de Élie Jacquenot, des Stinky Toys, de Mark Itzad, et donc d'une certaine manière, il est lui, avec Jacquenot d'ailleurs, le point de jonction entre les deux et le mélange peut-être de cette légèreté, même de cette superficialité des années 60 avec quelque chose finalement de plus mélancolique, de plus, peut-être plus urbain, plus sombre de la new wave, du punk, ce mélange-là avec l'arrivée évidemment des synthés et puis toute l'influence anglaise, parce que malgré tout dans Pop Satori on entend l'écho de ce qui se passe exactement au même moment en Angleterre, c'est-à-dire cette génération des Depeche Mode, des Human League, enfin toute cette pop électronique. Donc on parle de pop en Angleterre, et en France pour la première fois on a un équivalent presque à armes égales d'une chanson comme ça qui arrive à se travestir ou en tout cas à s'habiller avec les habits de la pop anglaise du moment. Et ce qui n'a pas été réussi finalement tellement dans les années 60 est parfaitement réussi à ce moment-là.
C'est moi.
C'est mon téléphone. Ah, pardon.
Retour aux côtés d'Étienne Dao et d'Arnold Turboust, l'un et l'autre sont partis à Londres pour travailler avec un producteur qui s'appelle William Orbit. Par la suite, il travaillera avec Madonna, Prince ou Blur. Mais en 1985, William Orbit est inconnu et c'est avec lui qu'Étienne Dao veut enregistrer.
J'avais découvert un album de son groupe, en fait c'est un trio au départ qui s'appelait Torch Song, et ils ont fait un premier album qui s'appelle Wish Thing, et je suis tombé amoureux de ce disque comme on tombe amoureux d'albums et qu'on écoute en boucle, en perfusion, et je voulais ça.
Vous vouliez quoi?
Oh, c'était vraiment le début de la musique électronique un peu ambitieuse. Même s'il y a eu des choses électroniques très bien avant, de la pop électro ou de la new wave électro, là il y avait quelque chose d'un peu plus cinématographique, un petit peu plus ambitieux, un petit peu plus large. William Orbit a vraiment inventé quelque chose à ce moment-là, et que j'ai trouvé extraordinaire, et j'avais envie d'avoir un album avec ce son-là, mais en français.
Une fois arrivé à Londres, au studio Guerilla, c'est l'enthousiasme, un peu modéré quand même. Arnold Turboust.
On a commencé à enregistrer.
Quant à moi, on m'avait préparé une pièce spéciale avec des jeux vidéo, parce qu'on ne voulait pas que je sois en studio. Au début,
j'étais puni.
Et donc j'étais puni.
Pourquoi ?
Je pense qu'il y avait, enfin, je veux dire, ils pensaient qu'il n'y avait pas besoin, que j'étais pas nécessaire, si vous voulez. Et donc, voilà, je suis resté un jour. Ce fut long déjà. Un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Moi, je vais rentrer en France, j'ai pas que ça à faire. Et puis, en fait, Étienne a insisté, mais si, il faut qu'il vienne avec nous. Tu te souviens, Étienne, comment c'était
Arnold Turboust finira par entrer en studio et William Orbit va en sortir. Il disparaît, sans rien dire. Orbit n'aurait pas été payé par Virgin, la maison de disques d'Étienne Dao. Arnold Turboust et lui finissent par travailler avec Rico Conning, l'ingénieur du son du groupe Torch Song, et ils vont concevoir le disque, tous les trois.
C'est le moment où vraiment on est passé à la production, parce qu'on a été contraint de passer à la production et de prendre notre destin un peu en main.
Vous auriez appris quoi ? C'était découvrir quelle façon de faire.
Je me souviens, je faisais comme un arpège, et moi je voulais qu'il, enfin voilà, je faisais tabadabad, tabadabad, et moi je faisais toutes les notes avec toutes les répétitions. Et William vient vers moi, il me dit, mais pourquoi tu fais ça? Je dis parce que je veux que ça se répète, et puis de moins en moins fort. Enfin, moi je faisais manuellement avec le bouton. Il me dit, it's just a delay, Arnold. I do it for you.
Ça veut dire quoi? It's just a delay.
C'est juste un effet. C'est un délai qui va te permettre de répéter ta séquence telle que tu vas la régler, telle que tu veux, par rapport au temps, voilà.
Sans que toi, t'aies à le faire.
Voilà, non mais moi j'étais vraiment old way. Et ça, et puis je me souviens aussi ces sons qu'il nous faisait, c'était quand même, ça sonnait super bien, quoi, c'était vraiment... Ouais,
très en avance, ouais. Sur les samples, par exemple.
Ouais.
Mais c'était vraiment un magasin de jouets absolument incroyable. Enfin, pour un musicien, c'était phénoménal. On a vraiment eu la sensation d'apprendre quelque chose, et puis surtout la sensation vraiment grisante de mélanger les choses et de fabriquer, d'inventer quelque chose en fait. Ouais. Finalement, on a inventé quelque chose sans même s'en apercevoir en fait. C'est toujours tout autorisé, c'est pour ça que la pop est fantastique, c'est que on prend tout, partout, et on mélange, et on fait quelque chose qui devient personnel, qui devient sa signature, en prenant tout ce qu'on aime, et en citant ses sources.
Citer ses sources. Étienne Dao l'a fait dans un portrait qui s'intitule « Cowboy », réalisé par Alain Weiss pour Les Enfants du Rock en 1985. Il le fait aussi en face B du maxi 45 tours de « Tomber pour la France » où il reprend Serge Gainsbourg, Françoise Hardy et Syd Barrett. Syd Barrett, cerveau du premier album de Pink Floyd, tombé dans l'oubli à l'époque, Barrett dans l'oubli, hein, pas Pink Floyd, on est d'accord. La dernière chanson de l'album Pop Satori est aussi une reprise d'un morceau de Syd Barrett, donc Syd Barrett est une obsession, puisqu'il va encore hanter Blitz, dernier album de chansons inédites d'Étienne Dao. Citer ses sources encore et toujours jusqu'à aujourd'hui. Pour Pop Satori, Étienne Dao déniche une autre pépite inconnue qu'il livre au plus grand nombre. C'est une reprise de Love at First Sight, issue du seul et unique album de The Gist, un projet mené par le gallois Stuart Moxham, qui a composé cette chanson. Et par Étienne Dao, la chanson est devenue Paris le Flore, un titre produit par William Orbit.
Il y a deux guests qui devaient jouer sur cet album, il y a Chet Baker et il y a Nico aussi, que je suis allé chercher, je ne sais pas si tu te souviens, à Brixton. Je ne l'ai jamais trouvé à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Elle m'avait donné son adresse et en fait, je n'ai pas trouvé l'adresse qu'elle m'avait donnée. Donc je suis rentré bredouille.
Et pourquoi Chet Baker ?
C'est vraiment le chanteur qui m'a le plus inspiré, vocalement. Parce que je trouvais qu'on pouvait dire des choses très profondes et très graves, sans forcer du tout le trait, en étant très doux comme ça. Et donc Chet Baker, c'est vraiment mon inspiration vocale, complètement.
Parfois, les gens qui chantent n'ont pas du tout la même voix parlée. Vous, c'est pas votre cas.
Parce que j'ai parlé comme je chantais, j'ai pas appris. Ce qui était vraiment un handicap à la base est devenu une signature. Mais ça, c'est un coup de bol.
Quand vous faites écouter le disque à Virgin, comment ça se passe?
Ouais, c'était, ça s'est très mal passé. Nous, on était très très contents. Donc, on est arrivé avec un chariot de cacahuètes, de noix de cajou et compagnie pour fêter l'écoute. Et l'écoute a été mais vraiment polaire, quoi. C'est-à-dire que tout le monde s'est barré, l'air gêné, petit à petit, du style bon, ben, bientôt, et tout ça, sans aucun commentaire. Mais quand on est content de soi, quand on est fier de soi, ça rend très imperméable, en fait, aux critiques. Et je me souviens qu'on a, raflé ce qui restait des courses qu'on avait fait au supermarché du coin, et on a été fêter ça chez moi avec Rico et Arnold. Ouais. Et ça s'était tellement mal passé que c'était presque drôle.
Ils avaient déjà commencé avec Tomber pour la France. Enfin, ils n'aimaient pas trop ce titre. C'est pas là qu'ils avaient dit que c'était un fatras de synthé. Étienne, je dois dire, est très fort parce qu'il a su imposer aussi cet album. Le label, je pense, aurait laissé tomber beaucoup plus rapidement que ça s'il n'avait pas été là vraiment en poussant, en disant c'est ça, je suis sûr.
Je m'en foutais un peu. Enfin, c'est pas que je m'en foutais. On a toujours besoin d'avoir, d'être entouré, d'avoir une adhésion, de sentir que ce qu'on a fait est apprécié. C'est vraiment important. Mais quand on sent qu'il n'y a pas cette chose-là, il faut continuer à suivre sa ligne, à suivre sa vision. Et en fait, on a eu de la chance parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose dans les médias. Tout d'un coup, ils ont compris qu'il y avait quelque chose d'un peu différent. Et puis surtout la tournée, on a commencé une petite tournée dans des toutes petites salles. Il a fallu grandir. Et puis on jouait dans des patinoires à la fin. Donc on a été dépassés. Donc quand on fait une chanson, on a envie de la partager avec les autres. Donc ce succès, c'était ça aussi. Mais en même temps, je commençais à voir tous les revers de tout ça. Et puis aussi, commencer à accuser la fatigue physique. Hein. Voilà, d'avoir une vie de patachon, de travailler comme un fou, et d'avoir enquillé toutes ces choses-là. Puis malgré tout le succès, quand c'est ce qu'on attend et que c'est pas le fond de sa nature de se montrer, au début c'est amusant. Et puis après, finalement, c'est comme une espèce de truc qui arrive dans son salon qu'on ne sait pas gérer, quoi. Et je crois qu'à un moment donné, j'ai pas du tout su comment faire avec ça. Alors que j'aurais dû m'en réjouir, et que voilà, donc je n'osais pas vraiment en parler parce que. Il y a beaucoup de mes petits camarades qui auraient rêvé d'être à ma place. Donc je suis parti en Angleterre et j'ai commencé à travailler sur le prochain album qui s'appelait Pour nos vies martiennes. Et puis voilà.
Et voilà Christophe Comte.
La Daomania est presque c'est entre la Cloplomania et la Bruelmania. Il n'y a pas eu d'autres mania. Donc Dao fait partie de ces gens qui ont, dans l'histoire de la chanson française, ont été les moteurs d'une génération. C'est pas rien.
À l'album Pop Satori, il y aura une suite, 10 ans plus tard. Le disque s'intitule Eden et adopte le même principe. Capter les sons de Londres avec des textes en français. Ambition toujours menée par Étienne Daho et Arnold Turboust, que je remercie au passage. Merci aussi à Christophe Comte, auteur d'une biographie simplement intitulée Daho, paru chez Flammarion. Christophe Comte a aussi signé le documentaire Daho par Daho avec Sylvain Bergère, que vous pouvez visionner en ligne.
France Inter, Rebecca Manzoni, Pop & Co.
Allô, oui ?
Eddy de Pretto, au bout du fil, avant de l'avoir en chair et en os au micro, pour suivre les pistes d'une de ses nouvelles chansons. Et pour la deuxième semaine consécutive, de Pretto, Eddy choisit le prochain morceau que vous allez avoir dans l'oreille.
Mon choix pour cette semaine, ça serait Monde Nouveau de Feu Chatterton. J'ai écouté l'album dans son intégralité et j'adore l'éloquence d'Arthur, la musicalité de l'album, j'aime beaucoup, donc j'ai envie de l'écouter.
C'est donc Monde Nouveau, extrait de Palais d'Argile, le nouvel album de Feu Chatterton, paru le mois dernier.
Un vent, un grand vent nouveau, souffle sur le pays, très chaudement, dans un bain. Un bain de foule dévot, à moitié épaillé. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville. Du climat subsaharien, on n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Et nous voilà.
Eddy de Pretto et son ordi.
Et non, il faudra du jus.
Du jus pour écouter les pistes de sa chanson Bateau Mouche.
Bon, il va falloir un peu de temps pour que ça se charge, on peut parler en attendant.
Bien sûr.
Bon, on vous laisse tranquille. T'as
bien trop
le
bien.
Concept, Eddy, du...
J'ai le concept.
Allez.
Allez, salut. Au revoir, merci. C'est mes mamans.
C'est vrai.
Ah, j'en ai 8. Ça, j'arrête.
Eddy de Pretto, entouré Pour la sortie de son nouvel album, la chanson « Bateau-mouche », comme son titre l'indique, raconte ses débuts comme chanteur de croisière pour des touristes en balade sur la Seine.
Quand tu évolues et quand tu passes les étapes d'une carrière que tu as toujours voulu vivre, donc être sur scène, composer mes chansons, écrire, partager, ça a toujours été une envie depuis le berceau que j'avais en moi. Et donc, il y a toujours ce truc de comment tu regardes le passé. Est-ce que ça a été un truc horrible ou c'était que de la merde? Ou non, tu choisis justement de ramener une beauté, une tendresse sur ces moments-là. Et donc, c'était exactement le but de cette chanson, c'est comment ramener du soleil, du positif, de cette période qui n'était pas forcément, sur le moment précis, une des plus belles périodes de ma vie. C'est que je savais que c'était une étape, mais il fallait y aller tous les soirs au charbon. Parfois, il y avait une directrice artistique qui n'était pas toujours très tendre avec nous. Ça a été un peu ingrat. Et donc, du coup, avec le recul, voyant où, en fait, ça m'a permis d'aller, ça a été pour moi une des grosses formations de carrière, de chanteur.
Qu'est-ce qui a été formateur dans cette expérience de chanter sur les bateaux-mouches pour les touristes?
La proximité avec le public, comme avec toi là, aujourd'hui. Ben voilà, j'ai le micro entre les mains et je passe entre les tables. Et c'est vraiment de la drague, spectacle, quoi. C'est vraiment, t'es là, t'es crooner. You on my way, you're my way. Et soit il y a des gens qui kiffent et qui sont là. Oh, nice. Oh, very nice. Où il y a des gens qui ne te regardent pas, qui s'en battent totalement les couilles, tu vois. Donc ça, c'est une des écoles les plus rapides. Tous les soirs, c'était une croisière type en fonction des monuments. Donc, Ave Maria, Notre-Dame de Paris, la Statue de la Liberté, Good Morning America, je sais plus quoi. Un programme type. Et en fait, c'est comment tu mesures et comment tu réinsères beaucoup de choses en toi pour que, en fait, tu t'ennuies pas, quoi.
Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. En triplet et dessert, je reculais l'attente. Des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en toc que je prenais pour scène. Je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène. Maquillé au pinceau, un solo pour mariage, avec costume cello et l'odeur du fromage. Je posais comme il faut, les gens menaient pas large, je me sentais parfois trop entre rêve et noyade. J'étais lui qu'on ne voit pas, qui se glisse entre les tables. J'entends du Rihanna avec un accent grave qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mesdames. Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau, début, 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 beau, début, 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 beau, début, début, début.
Vous êtes jamais découragé?
Jamais. Non, il y a des moments où tu te dis, je me rappelle quand j'étais devant ma chambre, sur la fenêtre de ma chambre et que je voyais mon centre commercial, et derrière, au loin, dans les nuages, le faisceau de la Tour Eiffel, je pleurais, je me disais, mais putain, ça serait impossible, aide-moi, aide-moi, parce que je pense que je parlais d'une espèce de spiritualité ou d'un dieu, je sais pas, je regardais la Star Academy en plus, sur l'enfer, et donc c'était vraiment pour moi une envie de vivre de ça, quoi. Pourtant, tout le monde, tout mon entourage m'ont toujours dit que ça serait impossible parce que j'étais pas pistonné ou parce qu'il fallait sucer les bonnes personnes. Et pour autant, je n'ai jamais eu besoin de faire ça. J'ai jamais été pistonné. Pas de MeToo, pas de tous ces trucs-là. Déplacé, rien du tout. En tout cas, je commence à vivre de mes plus grands rêves étant petit.
On commence à écouter ?
Alors, avant d'arriver sur le truc de fin, j'aimerais écouter la première version qu'on avait faite avec Charlie Trimbure. Alors Charlie Trimbure, c'est le pote avec qui je suis parti en résidence pour faire cet album. J'avais le texte pour Bateau-mouche. Donc quand j'étais gars trop moche, chantant sur Bateau-mouche, j'avais rien dans les poches, faisais moi la fine bouche. Je lui dis, putain, il faut un truc lisible, hyper fort, où on entend le texte directement. Il faut que ça soit franc, quoi, dans la top line.
Ça veut dire quoi, la top line?
La top line, c'est la mélodie. C'est genre comment tu poses ta voix. C'est ce qui va faire que tu pourras la chanter derrière. Et donc, on est parti au début sur une première version qui n'était pas du tout très up, enfin, très levé, quoi. C'est américain. C'est compliqué d'expliquer les mots qui n'étaient pas très bougeantes, quoi.
Vous écoutez France Inter?
Ah, j'ai perdu, ouais, pardon.
Ok.
Ça va leur faire du bien aux auditeurs France Inter. Bon, alors. Et c'était un truc un peu plus contemplatif, plus doux.
Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais moi la fine bouche. Prenais toutes les avances, de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif.
Voilà. Et j'ai commencé à chercher soit des producteurs, soit des sons, des sonorités qui me plaisaient chez des gars à droite et à gauche. J'ai dit pas meuf parce qu'on en a pas trouvé. C'est compliqué dans les studios de trouver des meufs. C'est alarmant, mais il y en a peu. Et donc, j'avais cette guitare que j'ai reçue d'un producteur qui s'appelle Super Parka. Et j'ai aimé ce son, il m'a plu et je me suis dit que ça marchait vachement parce que je voulais quelque chose d'assez entourant. Je trouvais ça assez chaleureux, assez plein et que ça faisait un gimmick qui potentiellement pouvait rester en tête toute la chanson. Et c'est ce que j'essaie de chercher toujours dans les chansons, c'est un peu les riffs qu'on
c'est
puisse...
Les motifs voilà. Comme ça, très identifiables.
Voilà.
Et quand le refrain arrive... Il y a ce clavier.
Ouais. Avec une mélodie qui monte beaucoup plus, donc ça faisait « Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde, là, je rêvais des tonnes, je voyais déjà en haut et c'était beau. » Le truc qui ouvre au maximum, c'est-à-dire que la mélodie, elle accompagne le fait que on desserre les épaules, on ouvre les épaules à balle et on est là en genre « Wouh, c'est parti, tu vois. » Un peu le lyrisme, les 50, Charles Aznavour, le côté, allez, on y va, on sort les strings, c'est les violons.
Bah d'ailleurs, il y a une citation d'Aznavour dans la chanson. Je me voyais déjà en haut.
Eh bien, oui. C'est comment lier tout un tas d'influences qui sont très éloignées, finalement. Tout en insérant le lyrisme qui, moi, m'a toujours plu, de la langue française, dire les mots, faire passer les messages et l'exprimer le plus, comment dire...
Personnellement et intensément
oui,
possible.
Oui, voilà, le plus... Mais c'est en soi, quoi. Ça vient de ses tripes, c'est viscéral. Et pour moi, ça, Brel, Aznavour ont été des gros exemples de ça. Ouais, le but de la musique, en tout cas, que j'essaie de créer, c'est de piocher un peu dans ces deux univers.
J'aimerais bien qu'on écoute la voix.
Ouais.
Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut.
Je pense qu'on l'a refait, ce refrain, une quinzaine de fois pour qu'il me plaise.
Quand j'étais personne...
Faut y aller, quoi. Enfin, il faut pas... Et il m'était très difficile pour moi en studio, je sais pas pour quelle raison... parce que j'avais travaillé dans d'autres titres énormément la dilettante, un peu le côté un peu plus nonchalamment, j'avais travaillé ça sur d'autres titres. Et sur ce titre précisément, il fallait pas être en arrière, fallait être devant, fallait l'assumer. Et il m'a fallu quelques temps et quelques prises pour pouvoir enregistrer ce truc et insérer limite un peu plus de volonté que nécessaire et d'y aller, quoi.
Bah, ce refrain, il raconte Botniak aussi.
Ben voilà, et en plus, voilà, c'était toujours une envie qui vient des tripes et qui a envie d'être racontée de cette manière-là, dans l'urgence et dans la tension de l'objectif d'une vie, quoi. Et j'avais envie de recréer cette urgence de vie. Et c'est pour ça que le bateau mouche, pour moi, est une très belle histoire et qu'il était important pour moi de la raconter. C'est que ça m'a construit, ça m'a conçu et ça m'a permis de toucher un petit peu plus au rêve que j'avais envie de vivre, quoi.
Je découvrais Paris, je
découvre l'étranger,
bien d'où il fait gris,
où on laisse tout trop l'air,
les monuments crariés,
emportés comme jamais,
avec une envie,
installée sur ce pavé,
à chanter toute ma vie,
pas les chansons des autres,
j'en avais dans le vent,
pas du saumon le nôtre,
j'attendais patiemment,
monter sur le trône,
qu'on reprenne mes chansons,
comme je reprends vie en rose.
Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau. Je devais quitter mes Nike et laisser sous le bateau. C'était pas assez classe pour l'image de ce show. Je n'avais qu'une hâte, pour montrer ce que je vaux, montrer combien je fake, les jantes le manalo. Le soir je m'improvisais, la vedette du bateau, en maquillant mes souhaits, au parfum du ghetto. Tous les soirs je trinquais, rêve fou de mon ego. En attendant je réglais mes grands rêves au chapeau. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau.
Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances, le sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif.
À tous les bâtards, c'est le titre du nouvel album d'Eddie Depreto. Le concert qu'il a donné hier sur la scène du studio 104 avec Arlo Parks est en réécoute sur le site de France Inter jusque vendredi prochain. Cette émission a été réalisée par Coy Nguyen, qu'on embrasse, et par Céline Illa, qui a repris Pop & Co à la volée. Merci, merci. C'est Rémi Sistiaga qui était à la console ce matin. Ilinka Negulesco a trouvé la doc et les sons. Et Jean-Baptiste Audibert signe la programmation musicale. L'équipe de Pop & Co est en bancale pour cause de Covid. Je vous propose la réécoute d'une émission dédiée à Amy Winehouse la semaine prochaine, le temps qu'on fasse tous un petit salto arrière. À samedi.